Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonnes fêtes qui se sont, j'espère, bien passées. C'est la question qu'on va poser à notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Miri Maman, les journalistes à Cannes, la radio israélienne française également. La correspondante de Radio Shalom, on l'entend régulièrement dans le direct de Jérusalem avec Bernard Abouaf dans le journal du soir. Bonjour Miri Maman.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours en Israël. Comment se passent les fêtes chez vous ?
Bah écoutez, c'est passé très bien, malgré les tensions sécuritaires que sans doute vous connaissez.
Oui, on va en parler.
Les fêtes se sont très bien déroulées dans une ambiance très israélienne, comme chaque année.
Alors, dans 15 jours, les Israéliens seront appelés à voter pour élire la nouvelle Knesset. Est-ce que en Israël, dans la rue, dans les magasins, on parle de cette élection ou on n'en parle pas et on fait fi?
Ah, écoutez, les Israéliens sont lassés. Hein. Enfin, je peux vous dire que cette cinquième élection bouscule un petit peu moins la société israélienne. La plupart des gens disent qu'ils vont aller voter parce qu'il faut aller voter, mais bon, voilà.
Il n'y a pas d'engouement spécial.
Non, il n'y a pas d'engouement spécial. La campagne électorale ne décolle pas parce que les Israéliens sont de moins en moins intéressés à entendre les arguments des uns et des autres. D'autant que souvent, les arguments, c'est d'attaquer l'un ou l'autre autre parti. Donc voilà, moi, de ce que moi j'entends des Israéliens, ils préfèrent parler des fêtes qui viennent de passer, de leurs prochaines vacances, de l'école qui reprend enfin, plutôt que des élections. Ils sont vraiment lassés. Ils se disent aussi, d'ailleurs, qu'ils se donnent rendez-vous déjà pour des sixièmes élections. Donc,
Ils sont déjà loin.
L'état d'esprit.
Miri Maman, qu'est-ce que veulent les Israéliens? C'est quoi les principales demandes des Israéliens vis-à-vis des hommes politiques?
Alors la première chose qu'ils demandent, c'est un gouvernement stable. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la plupart voudraient la sécurité d'Israël, évidemment. Mais sachez que la première préoccupation, au-delà de la sécurité, c'est vraiment une meilleure économie individuelle. Alors on sait que l'économie israélienne se porte plutôt bien, mais les portefeuilles des Israéliens beaucoup moins bien, puisqu'il y a cette flambée des prix, la hausse des taux d'intérêt, et c'est surtout la classe moyenne qui trinque en Israël. Donc ce qu'ils voudraient, c'est justement ouvrir par exemple à la concurrence les grandes surfaces, les supermarchés, marché, les produits, pour qu'il puisse y avoir une baisse des prix qui pour l'instant n'existe pas, et on ne voit pas très bien à quel moment l'augmentation des prix va s'arrêter. Donc c'est vraiment le coût de la vie qui est au cœur des préoccupations des Israéliens. Mais ils ont l'impression, et je dois vous le dire, qu'aucun des candidats ne pourra réellement apporter ce changement s'il n'y a pas un gouvernement stable, parce qu'il faut du temps pour mettre les choses en place, évidemment.
Alors, vous parlez de gouvernement stable, ces élections-là, on le voit, il y a deux grands partis, deux grands groupes, le groupe de droite mené par Benjamin Netanyahou et le groupe de gauche par Yossi Lapid. J'ai oublié quelqu'un dans cette discussion?
Alors déjà, le groupe qui est en face de Benjamin Netanyahou, on le déclare de centre-gauche, puisqu'il y a effectivement les partis de la gauche. Mais il y a aussi la droite avec Avigdor Lieberman et Gideon Saar, certes, qui s'est allié avec bleu-blanc de Benny Gantz, mais il reste à droite. Benny Gantz qui est plutôt défini au centre, et Yair Lapid plutôt au centre-gauche. Donc difficile de dire le bloc de droite, le bloc de gauche, parce qu'en Israël, à part le bloc de Benjamin Netanyahou qui est clairement à droite, l'autre bloc est tellement hétéroclite et tellement disparate que c'est compliqué de le qualifier. Par contre, oui, il y a aussi la liste arabe et les partis arabes qui ne font partie d'aucun bloc, même si on les met du côté du bloc anti-Netanyahou. On appellera ça comme ça, mais en fait, ils sont quasiment anti-tout. Donc, c'est difficile de les classer eux aussi. Voilà. Alors, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de cohésion aussi en face du camp Netanyahou, on va appeler ça comme ça, parce que trop de disparités, et eux, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à 61 députés après les élections.
Miri Maman, il y a évidemment les élections, mais il y a aussi un système électoral qui est un peu spécial en Israël. Vous pouvez nous le rappeler, comment ça se passe? On va élire une Knesset qui va élire un Premier ministre, et c'est aussi le mode d'élection à la proportionnelle totale.
Non, ce sont des élections à la proportionnelle, évidemment. Le Premier ministre n'est pas élu. Ah. Ce sont des listes. Voilà, on vote pour des listes qui sont prédéfinies, qui sont présentées évidemment aux électeurs. Il y a le patron de la liste, comme par exemple au Likoud, c'est Benjamin Netanyahou, à Yesh Atid, c'est Yair Lapid, et puis en dessous, il y a le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et en fonction des mandats que ces partis-là recevront, eh bien, on saura qui seront les députés. Donc en fait, on élit une Knesset avec 120 députés. Il faut avoir au minimum 3,25% des voix pour pouvoir prétendre être député à la Knesset. En dessous, c'est ce qui s'appelle le fameux seuil d'éligibilité, eh bien, le parti ne passe pas. Et ces voix sont redistribuées entre les différents camps, les différents partis. Mmh. Et ensuite, si on a 3,25% des voix, on a 4 mandats. Donc le minimum qu'un parti a une fois qu'il rentre à la Knesset, c'est 4 mandats. Ensuite, en général, donc c'est une fois les élections passées, on fait les comptes combien de sièges des 120 sièges qu'il y a à la Knesset, chaque parti obtient. Et c'est le président de l'État d'Israël, il n'a pas beaucoup de fonctions, mais en tout cas, il doit lui nommer un premier ministre, si vous voulez, un formateur, celui qui va former le futur gouvernement, la future coalition, puisqu'aucun parti n'arrive à 61, qui est la majorité absolue, commence les tractations pour former une coalition. Mmh. En règle générale, le président, depuis toujours, nomme comme premier ministre, futur premier ministre, celui qui a le plus de mandats. Donc, il n'y a pas de doute que ce sera Benjamin Netanyahou. Il y a une petite étape que j'ai oubliée, c'est juste avant qu'il nomme le premier ministre, en tout cas le formateur de la future coalition, appelons-le comme ça, il y a les recommandations des partis. Chaque parti, chaque chef de parti est reçu par le chef de l'État, par Yitzhak Herzog, pour dire qui il recommande au poste de premier ministre. Fort des résultats des législatives, qui est donc à la proportionnelle, en fonction du nombre de voix, il y a un nombre de sièges, le président d'Israël décide donc qui il va nommer au poste de futur Premier ministre. Et si ce Premier ministre parvient à former une coalition de minimum 61 sièges, donc 61 députés, il est donc Premier ministre. Voilà. C'est pas très simple pour les auditeurs français, j'imagine. Mais voilà, c'est ça, c'est la proportionnelle en tout cas.
Alors, Miri Maman, vous disiez dans votre intervention, nul doute que ce sera Benjamin Netanyahou qui arrivera en tête de Likoud. Ça veut dire que c'est déjà joué. On peut dire que Likoud va être le premier parti israélien?
Il n'y a aucun doute. Pourquoi? Le Likoud est le seul parti à dépasser les 30 mandats dans les sondages depuis des années, en fait. Il n'y a aucun parti. Il y avait à l'époque bleu-blanc quand Yair Lapid et Benny Gantz, la première fois, ont couru ensemble. Ils étaient très proches et ils ont dépassé les 30 mandats. Mais le seul parti, donc le premier parti d'Israël, il faut le savoir, qui n'a pas la majorité, mais en tout cas le plus grand parti, c'est le Likoud. D'ailleurs, le dernier sondage publié hier par la télévision publique israélienne prédit 31 sièges pour le Likoud et 25 pour Yesh Atid de Yair Lapid. Donc vous voyez, en tout cas, ce qui est certain, en tout cas, c'est que Benjamin Netanyahou et le Likoud arriveront en tête. Maintenant, est-ce que Benjamin Netanyahou réussira à former une coalition? Ça, c'est déjà une autre question. Et en tout cas, tous les anti-Bibi, le bloc anti-Bibi, eh bien, ils vont tout faire pour éviter que Benjamin Netanyahou ne parvienne aux 61 mandats nécessaires.
Alors,
je peux rajouter... Oui, allez-y,
excuse-moi.
Juste une petite parenthèse, 61 mandats, ce n'est absolument pas nécessaire, pas suffisant, pour avoir un gouvernement stable.
Évidemment.
Parce que, comme je viens de le dire, c'est une coalition de plusieurs partis, et ça donne une force à chaque parti au sein de cette coalition de faire du chantage et de dire « on va faire tomber la coalition si vous n'acceptez pas nos conditions ». Et c'est très compliqué que ce soit avec la coalition actuelle qui est tombée pour ces raisons-là, que si c'était Benjamin Netanyahou avec le nombre de partis qu'il y a au sein de la future coalition, si c'est Benjamin Netanyahou qui parvient à former une coalition.
Ça tombe bien parce que je voulais justement parler avec vous des vicissitudes de cette élection, notamment le fait que la Cour suprême a accepté que Amir Chikli rejoigne la liste du Likoud, et le jeu ambivalent de Ayelet Shaked et de Yamina. Comment vous expliquez un peu tous ces revirements? On sait aussi qu'il y a un parti arabe qui a été interdit à l'élection. C'est quoi votre commentaire, votre analyse sur ces derniers développements?
Écoutez, c'est la démocratie israélienne et comme on dit ici en Israël, comme en Israël, on n'est jamais à l'abri de surprises jusqu'à la dernière minute, surtout en politique. Pour Amichai Chikli, qui est un transfuge du parti Yamina, ex-parti de Naftali Bennett, c'est difficile à suivre, je vous l'accorde. Il a d'abord été exclu, on lui a interdit en fait, si vous voulez, la commission électorale de la Knesset lui a interdit de se présenter sur la liste du Likoud parce qu'il n'avait pas démissionné à temps de la Knesset pour pouvoir, et c'est la loi israélienne, si on change de camp, si vous voulez, si on change de parti et qu'on ne démissionne pas de la Knesset, eh bien, aux élections suivantes, on ne peut se présenter que si on est membre d'un nouveau parti qui n'existait pas avant.
D'accord.
Donc il avait été éliminé, sauf que la Cour suprême a décidé qu'il était de bonne foi et que donc il pourrait se présenter sur la liste du Likoud. D'ailleurs, il avait déjà une place, il a une place, la 14e, donc tout à fait éligible, évidemment. Il sera député à la prochaine Knesset sur la liste du Likoud. En ce qui concerne Balad, le parti arabe qui est le plus extrémiste des quatre partis arabes qui existent en Israël, il avait été également... Sa participation avait été annulée par la commission électorale, mais là aussi, la Cour suprême, comme souvent d'ailleurs, lui a donné la possibilité de concourir, de courir pour ces élections. Donc, le parti Balad, qui ne passe pas le seuil d'éligibilité, fait partie de cette course, même s'il a très peu de chances de passer le fameux seuil d'éligibilité. Pour revenir à Ayelet Shaked, elle s'est mise toute seule une cible sur la tête, si vous voulez, ou dans le dos. En ne prenant aucun parti, en restant dans cette coalition sortante sans en démissionner, elle aurait pu, même aujourd'hui, elle pourrait, elle ne l'a pas fait, en disant qu'elle préférait être dans un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'il ne soit pas restreint à 61 députés, mais de préférence de droite, et on voit bien que ça n'est pas possible. Puisque le camp de Benjamin Netanyahou arrive à aller, on va dire, à 61-62 maximum selon les sondages, même si on lui prédit 60. Et voilà, et donc du coup, comme elle ne choisit aucun camp, eh ben, elle se retrouve en dessous du seuil d'éligibilité dans un petit parti qui survit pour l'instant, mais selon toute probabilité, elle devra abandonner, ou en tout cas, elle ne passera pas ce fameux seuil électoral. Et ce qu'aujourd'hui fait le Likoud, c'est essayer de récupérer les voix. Puisque ce sont des voix de droite qui votent pour Ayelet Shaked, parce que tout va se jouer à un mandat près dans ces élections. Voilà, donc si le bloc de Benjamin Netanyahou, donc le Likoud, les partis ultra-orthodoxes et le sionisme religieux obtiennent 60, c'est pas la même chose que 61.
Évidemment.
Et donc le petit mandat que pourraient donner les électeurs d'Ayelet Shaked, eh bien il est bon à prendre. Voilà.
Time.
Notre invité, Miri Maman, journaliste à Cannes en langue française et également correspondante de Radio Shalom. On parle évidemment des élections israéliennes aujourd'hui. Miri Maman, on a parlé tout à l'heure évidemment de la politique israélienne. Concrètement, aujourd'hui, même si les sondages ne sont pas extrêmement fiables en Israël, c'est moins qu'on puisse dire. On peut dire qu'il y a forte probabilité que le bloc de droite l'emporte.
Le bloc de droite va l'emporter, mais est-ce qu'ils vont réussir à former une coalition de 61 députés sur les 120 ? C'est là toute la question. Et de toute façon, quand on regarde l'échiquier politique israélien et le vote des Israéliens, il y a plus de 70% de députés de droite à la Knesset israélienne.
Mais ils ne sont pas au pouvoir. Même
parce qu'ils ne s'allient pas, parce que Gideon Saar est de Nouvel Espoir, qui est maintenant avec Benny Gantz, et Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu, qui est à droite aussi, ne veulent pas siéger sous Benjamin Netanyahou. Donc il manque déjà ces voix-là. Après, il y a aussi des voix que Bleu-Blanc récupère de la droite, parce qu'il ne faut pas oublier que Yamina, en s'effondrant, le parti de Naftali Bennett, il y a une certaine voix qui part vers le Likoud, mais le Likoud fait alliance avec, on va dire, la droite nationaliste, ultranationaliste même.
De Ben-Gvir.
De Ben-Gvir et Smotrich. Et ces gens-là de Yamina, s'ils votaient Yamina, c'est parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cette ultra-droite.
C'est sûr que les deux partis de Ben-Gvir et de Smotrich vont siéger avec Benjamin Netanyahou, ça aussi c'est quelque chose de sûr.
Alors, je ne vais pas être aussi catégorique dans ma réponse. Voilà, parce que Benjamin Netanyahou a besoin évidemment du sionisme religieux, d'abord parce qu'il engrange entre 12 et 14 mandats, ce qui est quasiment historique. Si, comme vous le disiez, les sondages se vérifient, et ça, c'est pas encore le cas.
Ouais.
Mais en tout cas, il aura plus de mandats qu'aux élections précédentes. Ça, c'est une quasi-certitude selon tous les analystes. Mais ce sont des compagnons embarrassants pour Benjamin Netanyahou le plan international, par exemple. Personne n'a envie de parler avec Benjamin Netanyahou s'il est allié à l'ultra-droite. Donc, c'est très compliqué pour Benjamin Netanyahou, qui est un fin stratège, évidemment. Donc aujourd'hui, effectivement, il a besoin de ces voix-là pour former un gouvernement. Mais rien ne dit qu'il ne réussira pas à convaincre d'autres partis du camp adverse de passer chez lui et d'éviter de siéger avec Ben-Gvir et Smotrich. Donc, on ne sait pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, en Israël, les surprises politiques, ça peut être jusqu'à la dernière minute. Et tout va se jouer après les élections en fonction du nombre de mandats de chacun et des tractations en coulisses pour former une coalition.
Alors, Yair Lapid, qui est donc, vous l'avez dit, centre-gauche, a dit clairement que s'il fallait s'allier, il allait s'allier avec les partis arabes. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de l'avoir dit avant ?
Alors, il n'a pas... C'est compliqué. Alors, ce que fait aujourd'hui Yair Lapid... Oui, c'est tout est compliqué dans la politique israélienne. J'espère que moi, je suis assez claire.
Mais... Ça va.
Alors, Yair Lapid, aujourd'hui, ce qu'il essaye de faire, c'est siphonner les droits de la gauche et de l'extrême gauche, parce qu'il est bien conscient qu'à droite, les gens ne vont pas voter pour lui, puisqu'il est centre-gauche.
Évidemment.
Et donc, pour siphonner les voix de la gauche, il faut bien tendre une main au parti arabe. Alors, il faut faire attention de quel parti arabe on parle. Il n'est pas question, évidemment, de discuter avec le parti Balad, qui est de toute façon en dessous du seuil d'éligibilité, mais que, en fait, personne ne veut parler à ce parti. Aujourd'hui, ce parti ne fait plus ne compose plus la liste arabe unifiée, puisqu'il a décidé de quitter cette liste. Il reste donc Tal et Khadash, qui sont respectivement à gauche et à l'extrême gauche.
Yaram aussi.
Yaram. Alors Ram, c'est encore autre chose, c'est une autre configuration, parce que Yair Lapid a déjà travaillé avec Mansour Abbas, et que ça n'a, contrairement à ce qu'on peut penser, même avec Naftali Bennett, ça n'a pas été aussi compliqué, parce que Ram est resté sur la communauté arabe israélienne et n'a jamais parlé de la cause palestinienne pendant qu'il était à la coalition. C'était l'accord de coalition et Mansour Abbas l'a respecté. Donc, voilà, ce qui est compliqué avec les autres partis arabes, c'est qu'eux défendent la cause palestinienne et non pas la cause arabe-israélienne, donc des Arabes qui qui vivent en Israël, qui ont la nationalité israélienne. Et donc, je vois très difficilement Yair Lapid composer un gouvernement avec les autres partis arabes, ou même avec Ra'am. Je pense qu'il va essayer d'obtenir leur soutien, ce qu'on appelle le soutien de l'extérieur. C'est aussi une notion très israélienne. Ça veut dire que, imaginons qu'il ait 56 mandats et qu'il obtient 8 mandats, donc 8 députés qui le soutiennent de l'extérieur mais qui ne font pas partie de la coalition. Il a tout de même, il a dépassé les 61 mandats et il peut prétendre à former un gouvernement. Alors, Yair Lapid, moi je ne l'ai jamais entendu dire qu'il va être dans une coalition avec les partis arabes. Jamais.
D'accord.
Je l'ai entendu dire qu'il est possible de travailler avec eux, qu'il est possible de défendre certains de leurs intérêts, mais depuis la chute du gouvernement, je ne l'ai pas entendu une seule fois dire qu'il allait former un gouvernement avec les partis arabes.
Il a dit qu'il était
possible de travailler avec eux.
Oui. Miraman, on va terminer en un mot par quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour vous. Vous êtes journaliste en Israël depuis plusieurs années. Est-ce qu'il est bon d'être journaliste israélienne juive en Israël?
Ah, écoutez, je crois que je ne me suis jamais aussi bien sentie dans mon métier que depuis que je suis en Israël. Donc voilà. Chers journalistes juifs, si vous m'entendez, venez en Israël. Il y a du travail pour tout le monde.
D'accord.
Et voilà. La liberté d'expression
plus sérieusement,
ça veut dire incroyable.
Plus sérieusement, ça veut dire que votre métier se passe sans encombre et que, contrairement à ce que disent beaucoup de médias français, on travaille totalement librement en Israël.
Totalement librement. Totalement, vraiment. Il n'y a pas de pression extérieure et même, je dirais plus, je n'ai jamais vu un gouvernement qui soit de droite ou de gauche autant critiqué par la presse et les médias qu'en Israël.
Alors, voilà, dernier mot, Miri Maman. Je sais que vous avez travaillé pour la Radio Cannes en français. Comment on peut vous écouter en France pour écouter Cannes? C'est sur Internet?
Alors, il y a l'application de Cannes. Qui est gratuite, qu'il faut télécharger et alors chercher Reka, R-E-K-A.
D'accord.
Ou alors vous allez sur Google, vous tapez Cannes, K-A-N, en français, sur oui. Google, et vous tomberez sur soit la page Facebook, où on peut nous écouter en direct de 9h à 10h, donc 8h à 9h pour la France.
D'accord.
Soit sur le lien pour nous écouter en direct via Internet.
Sinon, on vous écoute évidemment sur Radio Shalom dans le journal de Bernard Avouaf qui est diffusé à Strasbourg et donc tout le monde peut entendre vos analyses. Merci beaucoup Miri Maman d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je suis très heureux de vous avoir eu et très heureux d'avoir eu toutes ces informations pour ces élections israéliennes. Merci à vous et à très bientôt peut-être. Merci. Bonne soirée.
Merci, Shana Tova à tous.
Shana Tova.